de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. La Malaisie autorise les prières du vendredi dans plusieurs États. Le Japon révoque le statut d'urgence dans la plupart des régions. Le Royaume-Uni achète des kits COVID-19 faits par Roche. Exposé à Corona, les exportations de janvier à avril 2020 sont meilleures que l'an dernier. Bali devient un projet pilote de tourisme basé sur le CHS. Voici le bulletin complet. Après plus de 2 mois d'incapacité à effectuer les prières du vendredi à la mosquée, en raison de l'épidémie de COVID-19, les musulmans de plusieurs États malaisiens, à partir du vendredi, sont autorisés à effectuer des prières en congrégation. Cependant, pour la phase initiale, seul un nombre restreint de personnes ont été autorisées à effectuer des prières du vendredi et d'autres prières de congrégation dans les mosquées de leurs régions respectives. Comme cité par le New Straits Times, vendredi 15 mai, pour l'instant, la mosquée restera fermée au public. Jeudi, le ministre des Affaires religieuses du département du Premier ministre, Zulkifli Mohamed Al-Bakri, a déclaré que les mosquées sélectionnées dans la zone verte COVID-19 du territoire fédéral seront autorisées à organiser des prières du vendredi et que d'autres prières de la congrégation tels que Tarawih et Idul Fitr, commenceront progressivement le vendredi et est limité à 3 à 30 personnes, sans compter les prêtres. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, jeudi 14 mai, a révoqué l'état d'urgence imposé par la pandémie de COVID-19 pour la majeure partie de la région. Cependant, ce statut s'applique toujours à Tokyo et Osaka. Après avoir craint que le virus n'explose au Japon, de nouveaux cas d'infection ont apparemment fortement chuté. Cela permet au gouvernement de mettre fin à l'action dans 39 des 47 préfectures avant qu'elle ne se termine le 31 mai. Selon Abe, si possible, avant le 31 mai, il souhaite également révoquer les urgences pour d'autres régions. Mais ce sera un long chemin à parcourir. Par conséquent, Abe a demandé aux résidents de ne pas sortir et de visiter d'autres zones. En outre, Abe a également demandé aux citoyens japonais de rester vigilants afin de prévenir d'éventuelles nouvelles épidémies. Le gouvernement britannique a eu des entretiens avec le fabricant de médicaments suisse Roche concernant l'achat du kit de test d'anticorps COVID-19. La démarche britannique suit les traces de l'Union européenne et des États-Unis qui ont d'abord envisagé d'acheter l'appareil auprès de Roche. Rapporté par Reuters, les tests de masse des anticorps avec l'outil sont considérés par un certain nombre de pays comme un moyen d'accélérer la réouverture de l'activité économique et commerciale qui a été détruite par le confinement. Le 7 mai, le laboratoire de santé publique britannique a conclu que le kit de test des anticorps Roche était capable de détecter les anticorps dirigés contre COVID-19 avec plus de précision. Le ministre britannique de la Santé, Edward Argyll, a déclaré jeudi 14 mai que le dispositif d'anticorps COVID-19 pouvait changer la donne. On dit qu'il se déplace désormais le plus rapidement possible pour discuter avec Roche d'acheter ce produit. Malgré la pression causée par l'épidémie de virus corona, les performances des exportations indonésiennes de janvier à avril 2020 sont toujours meilleures que celles de la même période en 2019. Le directeur du Bureau central de statistiques, Suharyanto, a expliqué vendredi 15 mai que les exportations totales de janvier à avril 2020 ont atteint 53,95 milliards de dollars américains, soit 0,44% de plus par rapport au total des exportations de la même période l'année dernière pour une valeur de 53,72 milliards de dollars américains. Cependant, les exportations non pétrolières et gazières de janvier à avril 2020 ont atteint 51,07 milliards de dollars américains, en hausse de 3,19% par rapport à l'année dernière qui était de 49,49 milliards de dollars américains. Il a affirmé qu'avec COVID-19, la performance totale des exportations de l'Indonésie est toujours meilleure que les attentes ou la situation générale. Le gouvernement indonésien réalisera le programme de réouverture touristique avec le slogan CHS, Propreté, Santé, Sécurité, comme affirmé Niwayan Giri Adnyani, le secrétaire du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, secrétaire principal de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, vendredi 15 mai à Denpasar. Elle a déclaré que l'impact de COVID-19 sur le tourisme ne se produisait pas seulement en Indonésie ou à Bali, mais dans le monde entier. Giri Adnyani a expliqué qu'en entrant dans un nouveau monde normal, toutes les nouvelles habitudes qui n'étaient pas considérées comme normales sont maintenant normales. Pour cette raison, la mise en œuvre de CHS est très appropriée maintenant. Elle a ajouté que la propreté ou la santé comprend la propreté des attractions et des entrées. La santé sous forme de vérification de la santé des touristes et de la sûreté ou de la sécurité qui comprend de la sécurité des touristes et des habitants de Bali. Elle a souligné que Bali était devenu un projet pilote parce que la province était la meilleure pour réprimer et vaincre la pandémie de COVID-19. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix d'Indonésie, Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Surabaya, Java Est. L'Institut de technologie du 10 novembre, ITS, a mis au point 25 recherches et innovations pouvant être utilisées pour gérer la pandémie de COVID-19. Le recteur d'ITS, le professeur Mohamad Asari, lors d'un séminaire du réseau, a déclaré jeudi que de nombreux produits avaient été développés avec succès par ITS pour aider à gérer le COVID-19. Les résultats de la recherche et de l'innovation incluent le robot Raisa, désinfectant pour les mains, écran facial, chemise asthmat, masque, cabine de stérilisation, cabine d'éco-vionnage, ventilateur d'urgence, robot ultraviolet. Le robot Raisa est actuellement utilisé à l'hôpital universitaire d'Erlangen, à la fois dans l'unité de soins intensifs, ICU, et dans l'unité de soins élevés, HCU. Ce robot peut fonctionner jusqu'à 8 heures et être contrôlé à distance via Internet Wi-Fi. Le robot peut transporter une charge maximale de 50 kg, y compris les médicaments et les biens nécessaires aux patients. Ensuite, l'envoi de Depok, Java West. L'Université d'Indonésie, en collaboration avec des partenaires de l'industrie, est prête à produire 1 000 000 d'éco-vions floqués HS19 pour le test d'éco-vionnage COVID-19. Le recteur de l'Université d'Indonésie, professeur Ari Kunchoro, dans sa déclaration écrite de jeudi, a déclaré que la collaboration de l'enseignement supérieur et de l'industrie était absolument nécessaire pour faire face à la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que la synergie avait réussi à créer le HS19 qui avait été produit jusqu'à 50 000 unités dans le premier lot et avait été soumis le jeudi 14 mai 2020 au réseau doctoral de la faculté de médecine de l'Université d'Indonésie. 95 pour être distribué à divers hôpitaux dans le besoin. Avant sa production, le prototype HS19 avait passé avec succès les tests du laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine de l'Université d'Indonésie afin de garantir que le produit était utilisé en toute sécurité par les agents de santé et les patients. La dernière info est venue de Bandung, Java West. La collaboration de chercheurs de l'Université Pajajaran et de l'Institut de technologie Bandung régénère les innovations pour la manipulation du COVID-19 dans la province Java West. Le gouverneur de Java West, Ridwan Kamil, à Bandung jeudi dernier a déclaré que l'Université Pajajaran et l'Institut de technologie Bandung avait réussi à produire deux types d'équipements de test en dehors de la PCR et du test rapide. Ridwan Kamil a déclaré que cet outil est différent du test rapide normal car il n'utilise pas de test sanguin mais un test sur écouvion. Il a déclaré que l'appareil devrait être produit en juin jusqu'à 5 000 kits de tests est produit par Biotech à Java West. La prochaine production de 50 000 exemplaires sera réalisée en juillet. Les recherches de l'Université Pajajaran et de l'Institut de technologie Bandung ont également abouti à un nouveau test PCR qui ne nécessite pas de test de laboratoire, mais plutôt sur un ordinateur portable avec une alimentation électrique, telle qu'une batterie de moteur pouvant produire 8 échantillons. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la signature de l'accord Sykes-Picot, le 16 mai 1916. L'accord est signé par le représentant de la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Basé sur l'accord de Sykes-Picot, les pays arabes, qui étaient à l'origine une partie de l'Empire ottoman, sont divisés par la France et le Royaume-Uni. Ainsi, l'Irak et la Jordanie et les territoires palestiniens sont gouvernés par les Britanniques, alors que la Syrie et le Liban sont gouvernés par la France. L'accord Sykes-Picot possède les effets à long terme, à savoir la préparation de la mise en place de l'État sioniste d'Israël en 1948 sur la terre palestinienne occupée précédemment par la Grande-Bretagne. Notre information est sur la mort de Frederick Hopkins, un psychologiste et chimiste britannique, le 16 mai 1947. Il a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1929 avec Christian Eijkman des Pays-Bas à la découverte des vitamines. Hopkins a fait de nombreuses contributions importantes à la compréhension du métabolisme des cellules vivantes et les méthodes de recherche biochimique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le porte-avions américain a été attaqué par l'Irak le 16 mai 1988. Le 16 mai 1988, à la guerre Iran-Irak, des avions de combat irakiens ont attaqué le porte-avions américain Stark dans le golfe Persique. 37 soldats américains ont été tués et de nombreux autres blessés. Ensuite, le gouvernement irakien a présenté ses excuses à l'Amérique pour l'attaque inadvertance et a exprimé leur volonté de rembourser. En voyant la réaction du chef américain, certains observateurs ont suggéré que cette attaque est en fait le scénario américain et le régime de Saddam pour créer l'insécurité dans le golfe Persique, ce qui donne une raison pour les Américains d'envoyer des navires de guerre dans le golfe Persique. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Menyiksa, ingin ku jumpa, tapi batas memaksa. Senyum pesona, oh, terbayang di benak, tenangkan jiwa. Hilangkan semua rasa, ganti haru bahagia. Oh, oh, oh. Kau ada di hatiku, di mimpiku dan di hariku. Kau ada selalu menyatu dengan darahku. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa. Terima kasih.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre. Le gouvernement a publié le règlement gouvernemental numéro 23 de 2020 pour restaurer l'économie. Le gouvernement indonésien publie officiellement une réglementation spéciale concernant la mise en œuvre du Programme national de relance économique, PERN. La mise en œuvre du programme PERN a été approuvée par le règlement gouvernemental numéro 23 de 2020 dans le cadre de l'appui aux politiques financières des États pour la gestion de la pandémie de la maladie à virus corona 2019, COVID-19. Le règlement du gouvernement a été signé par le président d'Indonésie, Joko Widodo, le 9 mai 2020 et promulgué le 11 mai 2020. Le chef de l'Agence des politiques budgétaires, BKF, du ministère des Finances, Febrio Kacaribu, lors d'une conférence vidéo à Jakarta mercredi 13 mai, a déclaré que le règlement du gouvernement fournissait une sécurité juridique pour que le gouvernement soit plus actif dans la mise en œuvre des politiques, réduisant au moins les effets négatifs de la propagation du nouveau virus corona. Le règlement du gouvernement stipule que, entre autres choses, le gouvernement peut effectuer la participation au capital de l'État, PMN, le placement de fonds, l'investissement du gouvernement et les garanties du Programme national de relance économique. Outre ces quatre éléments, le Programme national de relance économique peut également être mis en œuvre par le biais des dépenses d'État. Les fonds pour la mise en œuvre de la reprise économique nationale peuvent provenir du budget de l'État, le budget national ou d'autres sources conformément aux dispositions statutaires. Le gouvernement peut accorder une participation au capital de l'État aux entreprises d'État et ou aux filiales des entreprises d'État affectées par COVID-19. En outre, le gouvernement peut émettre des titres d'État SBN achetés par Bank Indonesia, BI, pour un financement de PEN. Le gouvernement placera également des fonds dans les banques pour la restructuration du crédit à la clientèle touchée par COVID-19 en plaçant des fonds dans 15 banques participantes ou des banques qui fonctionnent comme un tampon de liquidité contre la banque d'exécution. Le règlement du gouvernement stipule que les critères des banques participantes incluent les banques de catégorie saine sur la base d'une évaluation de la solidité des banques par l'autorité des services financiers OJK. Dans la banque participante est une banque commerciale constituée en Indonésie, opérant sur le territoire indonésien et au moins 51% de ses actions sont détenues par des citoyens indonésiens et ou des entités juridiques indonésiennes. Lors de l'élaboration des politiques, le ministre de coordination des affaires économiques, le ministre de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, le ministre des Finances, le gouverneur de Banque Indonésia, le président du Conseil des commissaires de l'OJK et le président du Conseil des commissaires de l'Agence d'assurance dépôt LPS formulent et déterminent des stratégies de la mise en œuvre de la reprise économique nationale, y compris en fixant des priorités secteurs d'activité touchés par COVID-19. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
From India. pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman. Sebilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sebilu yang dulu biarlah bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu bersama hati.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous inviterons à profiter des délices de Naniura, de Tapanuli, au nord de Sumatra. Naniura est connue comme sushi du peuple de Sumatra Nord. Cette nourriture provient de Tapanuli, la région autour du lac Toba. Naniura est l'une des spécialités de Batak, qui est célèbre pour ses poissons qui ne sont pas cuits, mais seulement assaisonnés.
Dang lalang ke Batak naniura etang poisson acidifié. Mais même ainsi, le poisson peut être mangé car la marinade acide peut éliminer l'odeur fétide du poisson cru. Dans les temps anciens, cette cuisine de Tapa Nuli était consacrée au roi, dont le roi Sisinga Mangaraja. Par conséquent, seules les cuisines royaux peuvent cuisiner Naniura. Mais avec le temps et en raison de son goût très unique, presque tous les Batak peuvent déjà le cuisiner. Même aujourd'hui, en raison de son épice distinctif, Andaliman, qui est une authentique épice de Batak, de nombreux touristes nationaux et étrangers recherchent cette cuisine indigène Tapa Nuli lorsqu'ils visitent plusieurs régions à Sumatra Nord. Le goût du poisson fait d'être Naniura est très amer sur la langue. Les épices sont épicées et chaudes sur les lèvres, surtout si Naniura est mangé avec quelques boissons gazeuses ou des boissons alcoolisées comme le vin de palme à base de jus. Vous vous sentirez très satisfait si Naniura est faite comme tambul, qui est une collation en buvant du vin. Le goût sucré du poisson ainsi que le goût épicé et le plaisir des épices, ainsi que le goût amer de l'andaliman, peuvent rendre le bout de la langue comme une piqûre. Naniura se trouve à plusieurs endroits dans Sumatra Nord, en particulier dans les sites touristiques au bord du lac Toba. Il y a même un restaurant qui permet aux visiteurs de voir comment le processus de fabrication de Naniura. Cuisiner Naniura est en effet un peu compliqué. Le poisson utilisé peut être n'importe quel poisson, comme le poisson rouge, le poisson mujair. Le poisson est mis dans le bain d'acide chunga pendant 4 à 5 heures, ajouté avec d'autres épices telles que le noyer cuit au four, l'ail, l'oignon, le poivre, le gingembre, le curcuma ajouté avec du piment. Pour être doux, le poisson doit être enveloppé. Le tamarin qui sert à faire du poisson cuit n'existe également qu'au nord de Sumatra. L'acide chunga ne peut pas être remplacé par aucun acide car il peut transformer le goût du poisson en amer. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur la région du plateau Dieng qui met en place la billetterie électronique. La région du plateau Dieng a mis à jour le système de billetterie. En utilisant un système de billetterie électronique, les visiteurs n'ont pas à se soucier d'acheter les billets directement chez eux. L'application de ce billet électronique est valable pour la visite du complexe du temple Arjuna et du cratère Sikidang. Si à l'heure actuelle, la région du plateau Dieng a mis en place un ticket sous forme de code-barre, l'application de ce système de billetterie électronique peut faciliter la commande de billets pour entrer dans la zone touristique du plateau Dieng, n'importe où et à tout moment. Le gouvernement de la région Banjarnegara Java Central se prépare actuellement à mettre en place un système de billetterie électronique dans la zone touristique du plateau Dieng. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, a déclaré que l'application du système de billetterie électronique visait à améliorer les services aux touristes. Le gouvernement de la région Banjarnegara prévoit également d'embellir les installations et infrastructures existantes à Dieng pour accroître l'intérêt touristique. De plus, une aire de repos sera construite dans la zone de la ligne principale de Dieng. Bien entendu, les différents programmes étant mis en œuvre devraient permettre d'augmenter le nombre de visites touristiques à Dieng et d'avoir un bon impact sur la communauté locale. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, estime qu'avec le nombre croissant de touristes qui arrivent, ce sera mieux pour l'économie de ses citoyens. Musique. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kronchong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kronchong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français la foudre.
Kekasihku,
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.